dans l'épître aux Éphésiens, aimer l'Église de Jésus-Christ. Épître aux Éphésiens, au chapitre 1er et au verset 20. Éphésiens, chapitre 1er, verset 20. L'apôtre Paul, il parle dans ce texte de la force infiniment grande de Jésus-Christ qui a été déployée à la résurrection. Et il dit, Éphésiens 1:20, il l'a déployée en Christ, cette force formidable de création, de recréation, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a, parlant de Dieu, le Père, il a tout mis sous ses pieds à Jésus-Christ. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Je prie le Seigneur devant cette méditation. Que ton esprit traverse nos cœurs en méditant ces paroles, et que ton esprit nous transforme un peu plus et nous répare et nous console et nous conduise à la ressemblance de Jésus-Christ. Amen. Quel est le plus beau pays du monde? La France, bien sûr. Mais je pense que le plus beau pays du monde, c'est certainement l'Église, parce que c'est là que se reflète la gloire du Seigneur. C'est ce pays qui est plus fort que la mort, sécurisant, c'est grandiose, pas forcément tranquille, mais la sécurité parce que, à la tête de ce pays, nous avons un chef. À la tête de l'Église, nous avons Jésus-Christ. Amen. Et il est comme ma tête avec mon corps. Il n'est pas à 36 000 kilomètres. Il est proche, il ne fait qu'un avec nous. Et il nous donne à travers sa parole tous ses ordres, toute son énergie, toute sa vitalité pour rebondir. Continuez, recommencez. Amen. Le Seigneur est le chef de l'Église. C'est Dieu qui nous l'a donné. Il faut qu'on l'adore ce matin. Il nous l'a nommé, il l'a établi, il l'a installé pour toujours chef de l'Église, pour conduire l'Église, pour défendre l'Église, pour diriger l'Église. Je crois qu'il le fait. Et vous? Je ne crois pas qu'il a failli dans sa mission. Je ne pense pas que c'est quelqu'un en qui il y a le oui, le non, le peut-être. Il conduit son Église. Ça veut dire chacun de nous. C'est pourquoi ne perdons pas courage. C'est pourquoi ne nous laissons pas aller au découragement, parce qu'à la tête de l'Église et de notre vie, il y a le Christ ressuscité, chef suprême. Chef suprême, ce ne sont pas des galons qui sont sur ses épaules. Chef suprême, cela veut dire chef sur toutes les choses de l'Église, sur tous les enfants de Dieu. Il veut conduire toutes nos volontés. Il veut conduire nos pensées vers le bien. Il s'intéresse à tout ce que nous faisons. Il veut conduire les détails de notre vie, les événements, les imprévus. Il veut être le chef partout, pour tout, en tout. Nous dépendons totalement de Jésus-Christ, le chef suprême. Amen. Nous n'avons pas notre vie privée, on fait ce qu'on veut, du bien, du mal. Nous n'avons eu qu'une vie, celle qui dépend de Jésus-Christ à 100%. Parfois, nous pensons avoir tout réussi parce que nous avons donné un jour notre cœur à Jésus. C'est grandiose, c'est beau, c'est le plus grand pas de l'être humain sur la terre. Mais est-ce suffisant de penser qu'un instant, puis après, on reprend la vie? Non. Le Seigneur, quand on lui donne son cœur, il nous dit « Suis-moi, confie-moi ta journée, confie-moi ton travail, confie-moi tes peines, confie-moi tes enfants, je veux m'occuper de tout, je suis le chef suprême sur toutes choses. Amen. Je veux m'occuper de tout. » Quelle sécurité! Nous n'allons pas au hasard, selon nos pensées. Nous allons dans le chemin de Dieu. Il y a un plan de route, il y a des lumières, il y a des guides, il y a une voix, il y a une parole, il y a un chef. C'est Jésus-Christ, le chef suprême. Êtes-vous d'accord? Amen. Ce chef suprême, il est au-dessus de tout. De toutes les autorités, de tout ce qui nous dépasse, en bien, en mal, au-dessus des anges et des démons, au-dessus de Satan, au-dessus des catastrophes naturelles de ce monde. Il est le berger au-dessus de tout. Il le sera demain. Il le sera dans les pires époques que nous allons traverser avec la menace comme jamais elle a été de guerre que nous allons aborder bientôt. D'où l'importance de la prière, parce que s'il est au-dessus de tout, il peut tout, et je dois le demander dans tout ce que je vis. Ne craignons donc pas, le plus fort est avec nous. Amen. Il a dit, je bâtirai mon Église avec une force infinie, de puissance, de capacité, je bâtirai mon Église. Le plus fort est avec nous. Comme le phare de l'île de Saint, je crois qu'il s'appelle le phare de la Vieille, et ce phare, les vagues se sont jetées dessus. Elles ont voulu monter jusqu'en haut du phare, mais le phare tient bon, parce qu'il est fait pour résister à tout. Il ne bouge pas. Et nous, nous sommes dans le phare, nous sommes dans le Christ. Les vagues se déchaînent contre nous, mais le Christ nous tient. Amen. Nous sommes cachés en lui. C'est le chef suprême de l'Église. C'est pourquoi nous pouvons aimer l'Église, croire en elle. Il faut nous attacher à Jésus-Christ. Quand on était à 15 mètres, on avait le harnais. Il n'était pas très grand. Hein. On mettait pas, il n'y avait pas un longeron, un harnais qui faisait 4 mètres. Impossible. Il faisait 60 cm et on travaillait tout près de l'échafaudage, attaché, accroché. Et je pense qu'il ne faut pas travailler loin du Seigneur. Il faut rester accroché à lui du matin au soir, lui parler, l'invoquer. Attachons-nous à lui parce qu'il est au-dessus de tout ce qu'on vit. Amen. Assis à la droite de Dieu, cela signifie le gouvernement du monde et de l'Église lui a été donné. Cela signifie que toute la force de Dieu passe à travers lui. Toute la force de Dieu est à sa disposition. Il dispose de milliards d'anges. Il dispose du Saint-Esprit et il nous le donne chaque jour. Amen. Il nous le donne dans l'Église. Je ne peux pas m'adresser à quelqu'un de plus haut que Jésus-Christ. L'Église est tout près de lui, attachée à lui. Et puis, l'Église, dans ce texte, elle est la plénitude du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot, plénitude du Christ? Cela veut dire que l'Église, elle est remplie de la présence de Jésus-Christ. Elle est remplie du Christ, comme l'eau remplit le fond des océans. Le Christ est partout dans ce lieu aujourd'hui, dans nos cœurs, nos vies, nos pensées. Il remplit tout en tous. Amen. Il remplit. Y a-t-il peut-être un endroit en nous qu'il ne remplit pas, qu'il ne peut pas remplir, parce que cet endroit est fermé, bloqué, parce que cet endroit est occupé, interdit à Jésus-Christ? Ouvrons toutes nos portes et toutes nos fenêtres et que le Seigneur remplisse tout. Amen. Je dis, je crois, que l'Église est remplie du Christ. Je crois que jusque dans nos pensées, l'apôtre dit même jusqu'à la moelle des os, c'est-à-dire dans les secrets que personne ne voit. Vous ne voyez pas la moelle de mes os. Dans les secrets, le Seigneur est présent. Amen. Et là, en chacun de nous, il reproduit sa vie. Il met en nous ses qualités, son intelligence, sa patience, sa douceur. Le Christ en nous, il participe à 100% à tout ce que nous vivons. Il remplit toute l'Église. Il ne dort jamais, même quand vous dormez, lui, il ne dort pas en vous. Il ne sommeille jamais. Il souffre avec les martyrs, les persécutés, à cause de l'Évangile. Il souffre dans les malades. Il souffre dans les pauvres. Il souffre dans ceux qui sont en échec dans leur vie, leur couple, leur famille. Il remplit l'Église. Et là, il nous transforme sans cesse, toujours à l'action. Il nous donne des forces dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance, la patience. Il nous enracine dans son amour. Il prie en nous, il gémit en nous quand la vie va mal pour nous. Il écoute toutes nos prières secrètes qu'on ne fait jamais venir sur nos lèvres parce qu'il remplit tout dans notre lieu secret. Il écoute nos gémissements. Il voit nos larmes. Il connaît tout de nous. Il est doux en nous. Il est humble en nous. Il reconnaît notre fragilité. Il s'adapte comme il s'est adapté aux disciples d'Emmaüs qui ne le comprenaient pas, ne voyaient pas qui il était. Il s'est adapté. Il a marché avec eux. Il est en nous comme il était dans son corps. En fait, le Christ, il a trouvé un nouveau corps, c'est l'Église. Il continue son incarnation dans l'Église. Et quand je vois l'Église, je vois le Christ, je vois sa présence. Nous sommes le reflet de sa présence, comme la création est le reflet de son intelligence. Amen. Et nous grandissons vers lui, ensemble, et il grandit en nous. Il prend plus de place, de plus en plus en moi, en vous certainement. Il prend de la place, il occupe beaucoup, beaucoup de choses et de temps. Que le monde autour de nous et les frères et sœurs qui s'ajoutent à l'Église, qu'ils voient Jésus en nous voyant, qu'ils entendent Jésus en nous entendant. Quelle richesse quand même, frères et sœurs, le Christ qui remplit tout. Quelle richesse quand la vie est en tempête, en souci, en fragilité. Quelle richesse de savoir que Jésus est là, il remplit tout. Non pas avec des paroles, un flot de paroles, forcément, qu'il faut apprendre, mais une présence silencieuse comme Jésus dans la barque. Il était silencieux, mais il était là. Et la tempête s'est calmée. Amen. La présence de l'Église, c'est la présence de Jésus. Sur la terre, nous sommes le corps de Jésus. Nous sommes la présence de Jésus. On porte par notre douceur, notre bienveillance, on porte la douceur, la bienveillance de Jésus. On porte les sentiments de Jésus. Amen. Je voudrais faire une autre lecture dans l'Épître aux Éphésiens pour dire aimer l'Église. Dans Éphésiens chapitre 5, au verset 25, Éphésiens 5, 25, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Amen. Nous devons aimer l'Église, frères et sœurs, parce que l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Le Christ a beaucoup aimé l'Église. Il l'a aimé avec tout l'amour que son Père est capable de lui donner. Il l'a aimé d'un amour plus fort que la mort, un amour qui n'a jamais eu de commencement, un amour qui n'aura jamais de fin, un amour qui ne se renie jamais, qui ne change pas au changement, un amour fort, enraciné. Il aime l'Église, c'est son épouse. Et le Christ rend son épouse pure par la parole. La parole, c'est un bain. On prend un bain ce matin. Quand la parole est donnée par la prédication, le Seigneur est à l'œuvre. Il régénère, il purifie, il lave, il enlève les saletés, les impuretés de l'esprit, du corps, de l'âme. Le Christ, il la rend belle, l'Église. C'est sa mariée, c'est son épouse. Il la rend glorieuse. Il la rend sans tache, sans salissure, sans ride. Elle ne vieillit pas. Dieu n'est pas jeune, Dieu n'est pas vieux, Dieu n'a pas d'âge, l'Église est éternelle. Le chrétien, intérieurement, ne vieillit pas, ou il rajeunit, c'est tout, mais il ne vieillit pas. Il reste dans l'amour premier. Le Christ prend soin de son Église. Il la soigne tendrement. En grec, il la réchauffe. Il réchauffe l'Église. On a besoin d'être réchauffé dans notre cœur, non ? On a besoin que l'amour et la force de Jésus nous consolent et nous réchauffent aujourd'hui. Oui, console-nous, Seigneur. Jésus soigne l'Église. Il la nourrit. À chaque prédication, j'ai conscience que je donne une nourriture. Jésus disait à l'apôtre Pierre, « Paie mes brebis », ça veut dire « nourris mes brebis, nourris mes agneaux ». Le pasteur est le pasteur des enfants, le pasteur des personnes âgées, le pasteur des malades, des nouveaux convertis, des néophytes, nouveaux convertis, nouvelles plantes. Et le pasteur doit nourrir, apporter la nourriture de Dieu, soigner. L'Église a toujours besoin de soins. Trop souvent, nous ne voyons pas de loin, nous sommes myopes. Guéris nos yeux, Seigneur. Parfois, nous sommes aveugles. Rends-nous la vue, Seigneur. Parfois, nous sommes sourds. Nous n'entendons pas les appels du monde, les appels de Dieu. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Parfois, nous sommes blessés, découragés. Guéris-nous, Seigneur. L'Église a besoin de soins, mais nous avons un époux dans le ciel et avec nous qui prend soin de nous. Amen. Et pour faire tout cela, Jésus s'est livré dans la souffrance, le dénuement, le déshonneur, dans la mort, parce qu'il a voulu que l'Église soit belle. L'Église a un grand prix. L'Église a une valeur suprême. L'apôtre Jean, dans son épître, il dit, je pense qu'il parle de l'Église, il dit « Kyria », le Seigneur en grec, tout ça c'est du grec, le Seigneur c'est « Kyrie » et le féminin c'est « Kyria ». Alors, on pourrait traduire par « grande dame ». L'Église, c'est une grande dame. C'est une belle dame. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur, Kyria. C'est la reine du ciel. Là-haut, nous régnerons toujours avec Jésus, sans ombre de variation. C'est la reine du ciel. Alors, nous devons avoir les sentiments de Jésus pour l'Église, les sentiments d'amour, d'humilité, de douceur, aucune méchanceté, aucune variation. L'Église, c'est l'épouse. Je pense que la Jérusalem qui est là-haut, la ville sainte, c'est quand même en premier l'Église. Je pense que l'épouse, c'est l'Église dans le ciel. Il faut imiter Jésus. Il aime son Église. Nous devons l'aimer. Il faut l'imiter. Il faut travailler à notre beauté intérieure. Quelle mariée, ça m'est jamais arrivé, de voir une mariée qui arriverait à l'Église pour son mariage, toujours avec un peu de retard, et de la voir arriver en vêtements sales, déchirés, avec des sabots bordé de boue. Ça ne m'est jamais arrivé de voir ça. Et je pense que de la même façon, le Seigneur veut que son Église soit belle à tout point de vue. La beauté intérieure, impérissable, incorruptible, d'un esprit doux. Que Dieu nous bénisse. Et puis au passage, puisque Paul le dit, que les maris parmi nous imitent le Christ. Vous êtes d'accord, mes frères ? Il pas amène trop vite. Que les maris imitent le Christ en aimant leur femme et en la rendant heureuse, consolée, glorieuse. Je dis le mot glorieuse. Aimer l'Église, c'est aimer le Christ. Donner à l'Église, c'est donner au Christ. Honorer l'Église, c'est honorer Dieu. Et nous sommes appelés à faire un avec le Christ, comme le mari et la femme dans un mystère qui dépasse simplement, qui dépasse l'acte sexuel, mais l'homme et la femme ne font qu'un. Et nous aussi, avec Jésus, on ne fait qu'un. Il disait, « Je serai ton fiancé par la fidélité. » Voilà ce qu'a dit le Seigneur. Il ne faut pas tromper notre fiancé. Il ne faut pas d'adultère spirituel. Parce que l'Église, elle n'est pas encore arrivée dans la perfection. Elle est comme Ève. Ève représente l'Église. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et Ève, elle a été tentée par le serpent. Elle a écouté quelqu'un d'autre. Il ne faut pas ressembler à Ève. Il faut que l'Église soit sans tache. Mais elle n'est pas sans tache. Les apôtres ont dû supporter Judas, le traître, le comploteur, l'homme de l'ombre. Ils ont dû le supporter à leur table, dans leur réunion de prière. Il était là. L'Église n'est pas sans tache. Mais il ne faut pas faire deux églises. L'église des purs dans la tribune et l'église des impurs dans la nef. La tribune serait trop pleine, non? On ne peut pas faire deux églises. Je pense que nous sommes tous ensemble en perfectionnement. Et il faut que les plus forts aident les autres. Il faut qu'il les forme, il faut qu'il les allaite, il faut qu'il les enfante. L'Église, c'est une maternité. On enfante des âmes dans la vie de Dieu. L'Église immaculée, sans tache, parfaite, sans rides, je pense qu'elle le sera quand Jésus paraîtra. Parce qu'il est dit qu'il fera paraître devant lui, à son avènement, une église super belle. On ne se reconnaîtra plus, tellement ce sera beau. Mais aujourd'hui, il faut regarder au-delà de nos rides, au-delà de nos défauts, au-delà de tout ce qui fait mal, il faut regarder l'église que Dieu habite. Les gens, les frères et sœurs, Dieu les habite. Amen. Aimons l'église. Que chacun de nous, moi, vous, devienne un support pour l'Église, une colonne pour l'Église. Souvent, je dis au Seigneur, je veux que tu t'appuies sur moi, je voudrais que tu comptes sur moi, je voudrais que tu dises, je peux m'appuyer sur lui. Je voudrais que toute l'Église soit une colonne pour Dieu et pour les autres. Amen. Je termine en vous disant une phrase. Aimons et respectons l'Église parce qu'elle est remplie du Christ, plénitude. Aimons et respectons et servons l'Église parce qu'elle est l'épouse bien-aimée de Jésus-Christ. Et les anges, les milliards d'anges, là-haut il y a du monde, ils regardent l'Église et ils disent, regardez le pardon, regardez l'amour, regardez la force de Jésus dans ce peuple sorti de la terre et de l'ombre, mais que Dieu fait monter dans sa gloire, la gloire de sa Trinité, parce qu'on fera partie de la Trinité de Dieu en étant l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je prie. Viens nous apprendre à t'aimer. Viens nous apprendre à aimer l'Église. Parce que de tout ce que tu as fait, de tout ce qui s'est fait depuis l'éternité, ce qui restera toujours, éternellement, c'est l'Église. Et cette Église, battue par les tempêtes, haïe par le diable, tentée par le mal, cette Église, tu l'aimes, tu la défends, tu l'animes, tu l'habites. Apprends-nous à l'aimer, à l'honorer, à l'unir, à la respecter. Merci pour ta parole, merci pour mes frères et sœurs, parce qu'ils sont remplis, parce qu'ils contiennent en eux ta présence. Amen. Restons devant le Seigneur dans un moment de méditation intérieure. Quelle vocation être l'Église, être aimé pour que nous puissions aimer, faire l'Église avec Dieu. Que Dieu nous pardonne tout ce qui a été un frein pour l'Église, que Dieu nous pardonne. Il est patient avec nous. Il nous suit dans nos lenteurs, nous suit dans nos faiblesses, il se souvient que nous sommes poussière. Mais ce matin, je voudrais travailler au chantier le plus extraordinaire, la formation de l'Église. Nous et tous ceux que le Seigneur appellera, en aussi grand nombre soient-ils, petits et grands. Amen.